au feu de camp du camp de Genneval, après les témoignages, quand nous allions au camp, on se croisait les bras comme ça, on faisait une chaîne autour du feu, on chantait « Béni soit le lien », parce qu'on venait de passer des jours extraordinaires. Et ce matin, Michael a beaucoup parlé d'être ensemble, comme c'est bon, d'être ensemble, comme c'est bien, d'avoir quelqu'un. Et c'est vrai, hein? Alors, aujourd'hui, nous allons lire principalement dans le livre des Juges, mais avant de lire dans le livre des Juges, on va lire quelques paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10. Nous allons lire quelques épisodes de la vie d'Israël en Canaan. Mais l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, il nous dit pourquoi ces choses qui sont arrivées dans le passé, il y a plusieurs milliers d'années d'ici, l'apôtre Paul nous dit pourquoi, pour quelle raison cela a été écrit et pour quelle raison cela nous est rapporté. Nous lisons ceci, par exemple, 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, ces faits sont arrivés, donc aux Israélites, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Et on lit à peu près la même chose au verset 11. L'apôtre Paul vient de rapporter un événement qui s'était produit dans le désert, et il dit « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Donc ça n'a pas été écrit comme ça, pour le plaisir d'écrire, mais c'était vraiment pour notre instruction. Maintenant, on va prier, et après nous irons dans le livre des Juges. Seigneur, viens-nous en aide pour comprendre ta parole, et viens-nous en aide après, pour la vivre, pour que tu sois glorifié. Amen. Alors, Juges chapitre 1. Juges, c'est juste avant Ruth. Maintenant, Jacques a longtemps parlé du livre de Ruth, donc vous aurez facile de trouver le livre des Juges. Alors, nous lisons chapitre 1, nous allons d'abord lire les versets 1 à 4. Il y aura deux parties dans le culte. À un moment donné, on va se lever et on va chanter. On chantera le chant de Gaetano. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit « C'est Juda qui montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Juda dit alors à son frère Siméon, « Monte avec moi dans le pays qui m'est attribué par tirage au sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est attribué. » Et Siméon l'accompagna. Les hommes de Juda montèrent, et l'Éternel livra les Cananéens et les Phérésiens entre leurs mains. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Voilà, je voudrais tout simplement signaler que les juges dont il est question dans le livre des Juges, ce ne sont pas les juges tels que nous les connaissons maintenant. Bien sûr, ces hommes rendaient aussi des jugements, mais c'était surtout des chefs. Parfois, ils étaient des chefs de guerre. En tout cas, c'était des leaders qui, pour un temps, conduisaient le peuple. Donc ici, nous sommes au début des conquêtes du pays de Canaan. Et il faut que quelqu'un commence, parce qu'il y a 12 tribus. Alors, qui est-ce qui va commencer? Et nous avons lu qu'Israël consulte l'Éternel et que Dieu fait savoir que ce sera Juda, la tribu de Juda, qui va commencer les conquêtes. Et nous avons lu aussi que Juda, il aurait pu partir seul à la conquête. Juda aurait pu penser qu'il était fort assez pour attaquer les Cananéens et remporter la victoire. Mais nous avons lu aussi que Juda a préféré demander l'aide de son frère Siméon. Et Siméon a accepté, et dans la suite du récit, au verset 10, eh bien, nous avons vu qu'il y a une réciprocité, que Juda a accompagné Siméon dans la conquête de son territoire. Il faut une certaine dose d'humilité quand même pour demander de l'aide à quelqu'un. Parce que demander de l'aide à quelqu'un, c'est quelque part faire aveu de faiblesse. Ça veut dire, moi, je ne suis pas fort assez. Et faire aveu de faiblesse, c'est, je pense, quelque chose que l'être humain n'apprécie pas spécialement. Parce que demander de l'aide, ça diminue la personne demandeuse. Et ça non plus, l'homme n'aime pas d'être diminué. Par contre, si on peut offrir son aide à quelqu'un, ah, alors là, ça me grandit. En tout cas, c'est beau de voir deux frères qui s'entendent bien et qui sont d'accord de mettre leur effort en commun pour entreprendre quelque chose. Et on voit aussi tout de suite comme c'est bon d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Et on peut aussi déduire le contraire, que comme c'est triste, comme c'est regrettable, quand on se retrouve tout seul dans une situation difficile où on aurait bien besoin d'aide. Et c'est un enseignement qui parcourt la Bible, je dirais, du début à la fin. Déjà dans le jardin d'Éden, c'est le Seigneur lui-même qui le premier a dit, « Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » Au mariage, c'est un texte, à certains mariages, c'est un texte qu'on lit et que nous allons lire. Nous ne lirons pas beaucoup de textes aujourd'hui, mais je vous invite à chercher dans le livre de l'Ecclésiaste ce que le roi Salomon a dit. Donc le livre de l'Ecclésiaste, c'est après les psaumes, après les proverbes et avant le Cantique des Cantiques. Au chapitre 4, à partir du verset 9. Voici ce que le roi Salomon disait. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce que à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir de proche pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. Et la corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Et c'est surtout ce verset-là que l'on cite à l'occasion des mariages. Ce n'est pas bon. Être seul. Et si on est seul, on cherche de la compagnie. En tout cas, je pense que c'est normal, comme ça. Jésus n'a pas laissé aller ses disciples tout seuls. Il les a envoyés en mission, mais pas tout seuls. Il leur a dit d'aller deux à deux. Et dans l'Ancien Testament, en Exode 18, nous avons l'épisode quand Jéthro, le beau-père de Moïse, vient lui rendre visite et qui voit tout le travail que Moïse doit faire pour conduire le peuple. Il lui dit, Moïse, ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu vas t'épuiser, tu ne tiendras pas le coup, tu n'arriveras pas au bout. Tu dois demander de l'aide. Et c'est parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand on est seul et qu'on aurait besoin de quelqu'un, eh bien, je crois qu'on peut dire que ça induit une certaine souffrance. Souffrance que beaucoup de personnes ont connue et que même de grands serviteurs de Dieu ont connue, comme par exemple l'apôtre Paul. Dans la deuxième épître, quand il termine la deuxième épître au Timothée, il dit ceci. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous, au contraire, m'ont abandonné. Mais heureusement, il ne termine pas sur cette note-là. Il peut dire, c'est le Seigneur qui m'a soutenu. Et on peut dire aussi que ce fut l'expérience du Seigneur Jésus quand il était, par exemple, dans le jardin de Gethsémané. Il en avait pris trois avec lui, mais les trois y dormaient. Donc avec les trois qui étaient là, Jésus il était encore plus seul que s'il avait été tout seul. Et quand il était sur la croix, on sait ce qui s'est passé. Un trahi, l'autre nié, tous abandonnés. Et comble de la solitude, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La solitude engendre vraiment une réelle souffrance. Mais parfois, si on se sent seul, on n'est pas nécessairement seul, même si on se sent seul. Et ça aussi, de grands et puissants serviteurs de Dieu l'ont expérimenté, l'ont vécu. Je pense en particulier au prophète Élie. Et dans 1 Roi 18 et 19, à trois reprises au moins, le prophète Élie se lamente en disant « Seigneur, je suis resté moi seul ». Il n'y a plus personne en Israël. Je suis tout seul et il y a, je crois, 420 prophètes de Baal. Et moi, je suis tout seul. Et il se lamente à trois reprises de cette façon-là. Mais le Seigneur lui révèle que, au contraire, il a réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et qui n'ont pas baisé la statue de Baal. C'est une tactique du diable de vouloir faire sentir à quelqu'un qu'il est seul, qu'on ne s'intéresse pas à lui, qu'on ne pense pas à lui. Parce que ça décourage. Et le diable aime bien quand un chrétien est découragé. Mais parfois, donc, souvenons-nous que quand nous avons l'impression d'être seuls, nous ne sommes pas nécessairement si seuls que cela. Et nous en avons fait l'expérience. Par contre, on peut parfois être vraiment seul. Mais quand on est vraiment seul, c'est parce que c'est vraiment notre choix personnel. Parce qu'on a voulu se couper. Parce qu'on n'a plus voulu voir personne. Parce qu'on n'a plus voulu entendre personne. Et quand ça arrive, c'est toujours mauvais signe. C'est le signe que quelque chose ne va pas. Ça peut être le signe d'une maladie passagère, mais ça peut être aussi le signe d'une dépression qui peut être profonde. Et il faut essayer d'intervenir parce que ce n'est pas bon de rester seul longtemps. On donne souvent l'illustration de cette braise que l'on retire de l'âtre ou bien du barbecue et qu'on laisse toute seule. Pas tellement loin des autres, mais on la laisse toute seule. Et rapidement, elle commence à s'éteindre. Tandis que les autres sont encore en train de flamboyer. Pourtant, c'est la même braise. Et si on souffle dessus, on voit que c'est reparti. Mais si on arrête de souffler, elle finira par s'éteindre. Mais même là, quand elle est presque éteinte, si on la remet dans le feu avec les autres, elle va tout de suite reflamber, reflamboyer. Elle va tout de suite repartir. Il y a cependant une bonne manière de rechercher la solitude. C'est la manière que le Seigneur nous a enseignée dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, dans un tête-à-tête avec ton Père céleste, parce que lui, il te voit et il t'entend. Il y a des cas de solitude extrêmes, heureusement rares. Voici ce que je vais vous lire, ce qu'a rapporté un journal français qui s'appelle Les dernières nouvelles d'Alsace. C'était le journal du 4 avril 2012. En avril 2012, le corps momifié d'un retraité décédé a été retrouvé à son domicile à Nice. Tous les indices découverts dans l'appartement laissent penser que la mort remontait à 2008. Durant tout ce temps, c'est-à-dire 4 ans, et sans doute avant son décès également, il n'a manqué à personne. Nul ne s'est inquiété ou même étonné de ne plus le voir ni le croiser. Et ceci non dans un trou perdu au fin fond de la jungle, mais dans une de nos plus belles villes. C'est un cas de solitude extrême, et veuille le Seigneur nous en préserver. Mais si, par malheur, quelqu'un d'entre nous devait souffrir d'une grande solitude, si aux yeux des hommes nous devions rencontrer l'indifférence ou la solitude, et je le répète, à Dieu ne plaise, il faut savoir aussi que il y a quelqu'un qui se préoccupe de nous, véritablement, qui se préoccupe de notre sort. C'est quelqu'un qui te dit, qui dit aujourd'hui, tu as du prix à mes yeux. Tu comptes pour moi. Et ce quelqu'un, aux yeux duquel nous avons du prix, aux yeux de qui nous comptons, c'est n'est rien d'autre que le Dieu de l'univers, qui a ses yeux fixés sur chacune de ses créatures et il n'attend qu'un signe, il n'attend qu'un appel pour intervenir. Je garde un souvenir précis d'une phrase qui était écrite à la chaux blanche sur un mur près de l'évêché à Liège. J'en garde un souvenir précis parce que nous ne nous réunissions pas encore ici à l'étage. Les réunions se faisaient encore en bas. C'était donc tout à la fin des années 80 parce que le bâtiment a été inauguré ici en 1991. Quelqu'un avait écrit donc en grandes lettres majuscule à la chaux blanche. Y a-t-il quelqu'un quelque part qui sait que j'existe. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'était le signe d'un grand désespoir. Mais c'était juste un peu avant la Noël. Et il y a un texte du prophète Isaïe qui a jailli dans mon esprit, ce texte qui dit « Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, et les cieux se sont déchirés, le Seigneur, il est descendu, il est venu apporter la lumière pour que cette personne-là, et personne ne soit seul, né à souffrir de la solitude. Le Seigneur, il est descendu. » L'apôtre Jean, dans son premier chapitre, dit « La lumière, elle est venue dans le monde, elle a éclairé tout homme. Il est venu chez les siens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les siens ? Ils ne l'ont pas reçu. » Oui, il y a quelqu'un qui sait que tu existes. Et ce quelqu'un-là, il veut t'accompagner, il veut te combler, il veut faire de toi son enfant. Et là, il a déchiré les cieux pour te rencontrer. La question, c'est toi, moi, est-ce que tu veux bien de lui ? Il est écrit à la fin du texte que si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'effondreraient. Mais les cœurs sont parfois plus durs à craquer que les montagnes. Mais le Seigneur a déchiré les cieux. Donc nous avons lu dans notre texte que Judas et Siméon se sont mis ensemble. Et nous avons lu qu'ensemble, eh bien, ils ont pu remporter la victoire. Judas a dû s'asseoir sur son orgueil, mais le Seigneur a accordé la victoire à Judas et plus tard à Siméon. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, et vous allez peut-être me trouver prétentieux. Je crois que je n'ai jamais parlé comme ça, et je ne parlerai certainement pas comme ça souvent. C'est même certain, mais j'allais dire peut-être, mais c'est certain que sur la terre, il existe des gens qui disent qu'ils n'ont besoin de personne. Et peut-être qu'il y en a ici aussi. Je n'ai besoin de personne. On est tellement malin, on est tellement intelligent. Il faut juste un peu de patience et vous verrez que vous aurez besoin de quelqu'un et que ça peut arriver plus vite que vous ne le pensez. Les circonstances, quand ça arrivera, ne vous demanderont pas votre avis, ne vous demanderont pas votre permission, mais ça viendra. Il suffit d'attendre. Il y a quelques années, Olivier, je crois que c'était lors d'une présidence à la fête des pères, il avait amené un pavé comme ça, avec un petit poème sur le papa. J'ai oublié les âges, hein, mais à peu près comme ça. À 5 ans, papa sait tout. À 10 ans, ça commence à pâlir. Papa sait presque tout. À 15 ans, le vieux, ça va, raccroche, hein. Quelques années plus tard, j'ai oublié les âges, hein, mais le pavé est toujours là. Je vais demander à papa. Quelques années plus tard, si papa était là, je lui demanderai. Hein. Alors maintenant, on va chanter le cantique de Gaetano. Et pas lequel ? On va se lever. Le cantique de mariage de Gaetano, c'était « Mon ancre et ma voile ». Et Cathy, c'était « Ça ne me revient plus ». Mais Ghislain, c'était « Ensemble ». Nous pouvons chanter. Dieu de toute grâce, Cathy. C'était Dieu de toute grâce.
Dieu, tu es ma force, ma consolation.
Voilà, vous pouvez vous asseoir. On va continuer encore la lecture. Et je crois qu'il faudrait accélérer parce qu'il y a déjà beaucoup de temps passé. Donc maintenant, nous allons lire les versets 4 à 7. Les hommes de Juda montèrent et l'Éternel livra les Cananéens et les Phérésiens entre leurs mains. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils y trouvèrent le roi Adoni-Bézek et l'attaquèrent. Et ils bâtirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le capturèrent, puis ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, « Il y avait 70 rois aux pouces des mains et des pieds coupés, qui ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. » On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Voilà une pratique bien barbare. Couper les pouces des mains et des pieds. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de cela pour notre vie spirituelle, pour notre vie chrétienne? On vous laisse la vie, mais on vous ampute des pouces des mains et des pieds. Et on lit ça comme ça, et peut-être qu'on ne se rend pas bien compte à quel point c'est handicapant de perdre ces deux-là et les deux gros qui sont aux pieds. Voilà ma fourchette quand je n'ai plus de pouce. Voilà mon couteau quand je n'ai plus de pouce. Et je vais manger, je vais couper ma viande, je vais faire ma tartine. Voilà une aiguille. Je la tiens comme ça, ça repousse. C'est pas la plus fine, c'est une aiguille à broder, hein. Voilà un fil, je n'ai pas de pouce. Je vais l'enfiler. Si j'y arrive, après je vais coudre, sans pouce. On vous laisse en vie, mais on vous coupe de quoi vivre. Alors, on a lu, il y avait 70 rois qui mangeaient en dessous de la table du roi Adoni-Bézek. Mangez les miettes. Vous n'avez pas de pouce. Allez ramasser les miettes. J'espère que de temps en temps, il y avait un morceau un peu plus gros qui tombait pour qu'on puisse le ramasser. Les pouces des mains et des pieds ont une grande importance. C'est ce qui nous permet, les pouces des mains nous permettent de saisir. Les pouces des pieds nous permettent de rester en équilibre. On ne s'en rend pas compte, mais à chaque pas, nos pouces, nos orteils nous empêchent de tomber. À chaque pas, c'est le Seigneur qui a mis ça, qui a raccordé tous les fils à l'intérieur. ceux qui étaient à un camp de famille, à Spa, ont vu cette année-là une démonstration de combat à l'épée. Oui, je m'en souviens parce que c'était impressionnant. Ça faisait beaucoup de bruit parce que les épées claquaient vraiment brutalement, violemment, une contre l'autre. Il y avait des étincelles tellement que c'était dur. Allez à la guerre sans vos pouces. Tenez une épée, tenez une lampe, une lance, pardon, ou une autre arme. Et si vous arrivez à en saisir une, battez-vous contre quelqu'un qui a tous ses doigts. Les chocs étaient tellement violents que je crois que l'épée de la main sans pouce se serait envolée au premier coup. Gardez l'équilibre. Là, c'était une démonstration sur du parquet. Sur le champ de bataille, je ne crois pas qu'on passe la tondeuse et le rouleau pour égaliser avant. Hein. Battez-vous sans vos orteils sur un terrain comme celui-là. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de cela pour notre vie chrétienne? Est-ce que ça pourrait arriver que spirituellement, malgré que tous ici, nous avons tous nos pouces aux mains et tous nos pouces aux pieds, est-ce que ça pourrait arriver que spirituellement, nous soyons comme ceux qui sont amputés de leurs pouces, sans force, presque sans force, devenus très dépendants? Comment est-ce que ça pourrait arriver? Si nous voulons nous isoler, par exemple, hein, comme nous l'avons dit, si nous ne voulons plus profiter de la communion des frères et des sœurs, alors c'est quelque chose qui peut arriver. Si nous perdons le goût de lire la parole de Dieu, eh bien, nous nous mettons dans une situation de faiblesse. Et au lieu de chanter « Je suis fort, fort, plus que vainqueur », on a envie de chanter « Je suis faible, faible, presque toujours vaincu ». Et qu'on le veuille ou non, nous avons toujours de la compagnie. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. Même si nous avons décidé d'être seuls et de nous retirer, si nous avons coupé tous les téléphones et tout, même si nous voulons être seuls, on n'est jamais seuls, parce que nous avons toujours de la compagnie. Et nous sommes soit en bonne compagnie, soit en mauvaise compagnie. Nous sommes soit avec le Seigneur et ses anges, ou bien avec le diable et ses démons. Mais si nous ne choisissons pas la compagnie du Seigneur, alors nous choisissons le chemin des pécheurs. Nous choisissons le banc des moqueurs. Et nous choisissons de périr. On a dit que c'était toujours mauvais signe quand quelqu'un voulait s'isoler. Et c'est vrai pour un chrétien, c'est vrai pour quelqu'un qui est né de nouveau. On ne peut pas se contenter d'être un bon protestant, ni même un bon évangélique qui vient tous les dimanches au culte. C'est insuffisant pour faire progresser le royaume de Dieu. C'est insuffisant pour avoir un témoignage rayonnant. Et que le Seigneur nous vienne en aide pour qu'aucun de nous, nous nous laissions spirituellement amputés de nos pouces, des mains et des pieds. On va encore lire quelques versets. Nous allons lire la demande d'une jeune mariée à partir des versets 12 et 15. verset 12 à 15. Caleb dit, « Je donnerai Aksa pour femme à celui qui battra Kiriat Sefer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb, s'en empara. Caleb lui donna alors sa fille Aksa pour femme. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle lui répondit, « Fais-moi un cadeau. En effet, tu m'as donné une terre située au sud. Donne-moi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Donc il y a ici une jeune mariée, elle demande un cadeau. C'est son cadeau de mariage. Et elle a demandé de l'eau. Pour nous, ça fait bizarre, parce que nous, on a des robinets, on n'a qu'à tourner ou à appuyer, et il y a même des robinets, il n'y a pas besoin. Hein. On met ses mains et ça coule. Mais à cette époque-là, ce n'est pas comme ça, et encore aujourd'hui, dans de nombreux pays, ce n'est pas comme ça. Dans de nombreux pays, il n'y a pas de robinet. En Belgique, vous savez, il y a beaucoup d'eau, on se plaint souvent qu'il pleut toujours. Les émigrés ne viennent pas d'Afrique ou d'ailleurs parce qu'il fait beau en Belgique, hein, et parce qu'il pleut. Nous nous plaignons beaucoup, et pourtant on dit que l'eau, c'est l'or bleu. Aujourd'hui, en Israël, comme à cette époque-là, l'eau, c'est un bien précieux, parce qu'il n'y en a pas de trop. Il faut être économe en eau. Et c'est pour ça que les Israéliens ont inventé ce qu'on appelle le goutte-à-goutte, des kilomètres de tuyaux avec un petit trou à chaque arbuste, à chaque plante, et juste une goutte là, à l'endroit où il faut. Nous savons tous que dans tous les magasins, il y a beaucoup, beaucoup de boissons disponibles. Mais la seule boisson indispensable à la vie, c'est l'eau. J'ai mis deux smileys dans mes notes. Vous connaissez le texte de à Timothée 5, 23, où il est écrit « Cesse de boire uniquement de l'eau, Timothée, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions ou bien de tes fréquents malaises. » Souvent, les gens, ils inversent. Hein? Tout petit peu d'eau, hein. Pas trop, hein, parce que ça pourrait vous rendre malade. L'eau est un des éléments indispensables à la vie. Sans elle, sans l'eau, c'est la mort assurée. C'est pas instantané. L'air est aussi un élément indispensable à la vie. Après quelques minutes, sans air, c'est fini. De l'eau, ça dure plus longtemps. Mais il paraît qu'il faut souffrir. Hein? Il en est de même avec le Seigneur. Ce qui est important pour nous, c'est de rechercher sa présence. Ce qui est indispensable, je veux dire par là, ce qui est indispensable à la vie chrétienne, qui est aussi indispensable que l'eau, c'est de rechercher la présence du Seigneur, c'est de prendre du temps à passer avec lui. Et cette présence, cette communion, c'est comme l'eau de Dieu qui désaltère l'âme et qui désaltère le cœur. Et de même que l'eau est indispensable pour notre vie, notre communion avec le Seigneur est indispensable pour nous maintenir en vie spirituellement. Et c'est tout indispensable. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc pour rester en vie et pour progresser, il est indispensable, écoutez bien ceci, indispensable de faire de Jésus l'essentiel de notre vie. Comme il est essentiel de boire de l'eau, parce que c'est le seul liquide indispensable à notre vie. Il est indispensable de faire de Jésus l'essentiel de notre vie. Il y a beaucoup de choses importantes dans notre vie, mais il y en a une qui est essentielle. C'est le Seigneur Jésus. Dans le psaume 42, dans les versets 2 et 3, il est écrit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ?» Alors, de quoi est-ce que nous, et moi, de quoi est-ce que j'ai soif? Est-ce que nous avons soif du Dieu vivant? J'ai dit que le Seigneur soit l'essentiel de notre vie. Ce n'est pas un rabat-joie. Ce n'est pas un rabat-joie. Le diable essaye de vous faire croire ça. Mais le Seigneur, il a changé l'eau en vin parce qu'il aime la joie. Il est venu apporter la joie. Le monde vend, propose toutes sortes de poisons qu'il faut payer cher et que le diable nous fait payer cher. Le Seigneur offre l'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Alors de quoi, moi et vous, avons-nous soif? Plaise à Dieu que nous ayons soif du Dieu vivant. Maintenant, nous allons chanter ce cantique qui a été inspiré par le psaume 42, le 610 dans le « J'aime l'Éternel », comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau.